Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 157e Comics Weekly, l'émission où vous review les sorties comics VO de la semaine. Cette semaine, la grosse sortie, c'est Infinity, bien sûr, puisque c'est le début de ce gros event Marvel. Nous parlerons aussi de l'indé avec le retour de Resident Alien, la suite de X-Files ou encore de Walking Dead ou d'Astro City. Une partie digitale avec un produit Infinity qui accompagne la sortie du début de l'event. Et enfin, DC avec la suite de Zero Year chez Batman ou encore de Trinity War avec la Justice League of America. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi en ce jeudi 15 août, où même les jours fériés, nous on bosse, on s'en fout, on est des tarés, Nono !
Et oui, bonsoir à toutes et tous, c'est moi Nono, et sans oublier, bonsoir les enfants.
Bien sûr.
Ah oui.
mais aussi nous avons Mister René Bunny.
Et oui, bonsoir à tous, ouais, cool, ouais, chou, waouh.
Qui est en mode top 50.
Voilà.
Voilà. Qui va nous faire son top 50 des meilleures chansons de Dorothée sorties en 1992.
Tiens, je crois que j'ai rêvé de Dorothée cette nuit, d'ailleurs. Alors ça, c'est... c'est horrible, ce que...
Comment vous rappelé... êtes connectés, c'est trop mignon.
Sincèrement, c'est de la pure coïncidence.
Je vais rassurer les auditeurs,
on n'en a pas discuté avant, quoi.
Donc, absolument
vraiment,
pas.
Là,
et vous ne couchez pas ensemble non plus. En tout cas,
si.
Pas hier soir.
Ah, mais si, ça, on l'a dit déjà depuis longtemps.
Mais pas hier soir, effectivement.
Mais pas hier soir, non, puisque je lui fais un peu la tête, il m'a trompé avec Flo l'autre semaine, donc je suis encore en mode petit boudage, quoi.
Petit Suisse. Et, et d'ailleurs, Steve, du coup, n'a pas dormi, hein, carrément. Quasiment pas.
J'ai passé ma nuit à pleurer, une fois de plus. Ouais. Enfin, voilà, tu te rends compte dans l'état que tu me mets, quoi.
Alors, ça, c'était le WhatsApp de la semaine.
sur ce début totalement homo-érotique, nous allons démarrer avec Marvel. N'y voyez pas le lien cause à effet, quoique. Avec le début du gros event que l'on attendait tous, Infinity. Mister René Bunny va nous résumer tout ça, s'il le peut.
Et il va nous résumer bien.
Oui,
Alors, je vous résume tout ça.
Résumer, R-A-Y, zumer.
Bien voilà. Évidemment.
Voilà, donc, il s'agit d'un event de Jonathan Hickman et avec des dessins de Jim Chung. C'est la première partie sur les 6 qui vont constituer cet event avec aussi Avengers et New Avengers, du même Jonathan Hickman. J'ai été désagréablement surpris puisqu'on démarre sur ce que je pense être un gros spoiler de ce qui s'est passé dans New Avengers que je n'avais pas lu. Je pense avoir vu la fin de son premier arc sur la série, un peu malgré moi. Ensuite, je suis passé à relire ce qu'on avait pu lire déjà dans le Free Comic Book Day. Donc ça m'a un peu surpris parce que je pensais pas retrouver ça. Au fait, je pensais que ça allait juste être dans le Free Comic Book Day et qu'on allait passer à autre chose. Alors j'ai eu un petit peu peur qu'ils nous remettent ça et puis du coup qu'on ait moins de pages ensuite, mais c'est pas le cas, c'est quand même un gros numéro.
Ouais, plus de 50 pages. Là, pour une fois, ils se foutent vraiment pas de notre gueule en termes de premier début d'event, quoi. C'est pas un numéro de 20 pages.
Ouais, voilà. En fait, là-dessus, on a vraiment l'impression que Hickman, il a enfin fait son double épisode, en fait.
Oui.
Je sais pas si vous vous souvenez au début quand on a commencé à chroniquer le Avengers et le New Avengers, à chaque fois on se disait ouais mais en fait une fois qu'on a lu les deux ça aurait pu tenir en un seul et il aurait mieux fallu faire un double. Et là j'ai l'impression qu'il a enfin fait son double épisode.
C'est clair. Non, ouais, entièrement d'accord.
Justement donc c'est un épisode composé de plusieurs parties. À chaque fois il donne un petit titre à chacune des séquences. Pour essayer un petit peu de rendre ça un peu digeste. Alors le truc c'est que le scénario est pas très complexe, hein. Le scénario est pas très complexe, mais il y a énormément de personnages. Donc à voir comment il va tous les utiliser pour
on
ça.
On a une page cast hein, quand même qui prend une page complète avec ouais. Je sais pas 30 à 40 persos dessus ou une trentaine.
Ouais, mais il aurait peut-être mieux fallu la mettre tout de suite parce que cette page-là arrive quand même à la 15e ou 16e page.
Ouais. Bah, en fait, après qu'il ait rappelé, enfin pas rappelé,
Bah,
mais
il fait son intro, ouais, voilà, c'est ça.
après que
Ouais,
le
c'est
Free
après
Comic Book
l'intro, ouais.
Day soit republié. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est que les X-Men sont résumés à 3 personnes. Bon,
Ouais.
à côté des Avengers, qui sont 40 000 maintenant à peu près, hein, on va arrondir. Et puis donc on voit par exemple les Space Knights. Alors, est-ce qu'il y a des liens avec Rome? Parce que je suis un peu
Bah
perdu.
oui, c'est la même race, mais Rome, ils
C'est
n'ont plus
ça.
les droits, donc Rome n'apparaîtra plus jamais. Rome, ils n'ont pas les droits, donc je sais que c'est un gros rêve de fan de beaucoup, mais Rome, c'est terminé, on ne le verra plus. En revanche, on peut continuer de voir les Space Knights, puisque Marvel détient les droits des Space Knights.
Voilà. Les fameux builders aussi. Alors, à chaque fois, les builders, ça me fait penser à malheureusement ce film extraordinaire dont j'ai oublié le nom, Prometheus, bien sûr. Donc bon, enfin bon. Bref, tous ces personnages nous sont brièvement présentés sur une page, et justement, on retrouve la planète des Space Knights avec bah, ce qui semble être l'annonce de l'apocalypse dans un premier temps. Ensuite, on retrouve l'équipe d'Avengers en prise avec des Skrulls. Bon,
Ouais,
c'est petite mise en bouche.
et bien sûr, on retrouve surtout la jambrande sur le fameux The Peak, qui,
Oui.
je le rappelle, a été détruit il y a maintenant 4 mois dans Uncanny Avengers. Franchement, c'est vraiment désagréable, quoi.
Oui,
C'est
bah,
vraiment, vraiment désagréable.
Hickman est dans son monde, chacun est un petit peu dans son monde. On voit également que donc Remender est de son côté, et je dirais même Bendis est de son côté, puisque dans ce numéro, nul fait mention de Age of Ultron ou des conséquences sur le time stream ou quoi que ce soit. Hein. On est vraiment dans le Hickman-verse, dans le Marvel Universe, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment un truc à part. Alors ensuite, on arrive à la partie la plus importante, dirais-je, de ce numéro, puisque l'émissaire envoyé par Thanos, l'espèce d'extraterrestre qu'on avait déjà vu dans le Free Comic Book Day, qui peut se rendre invisible, qui est un super espion, une sorte de super espion, s'introduit au fait chez les Inhumains et pour un petit peu vider la tête, savoir ce qui se cache dans la tête de Black Bolt. Donc, il découvre un certain nombre de choses. Une vision d'ailleurs qu'il a. Alors, je sais pas si on avait déjà vu ces personnages qu'il voit apparaître, ce roi et cette reine là. C'est bon, c'est assez intrigant. Je sais pas si on les avait déjà vus auparavant. Toujours est-il que ça se passe pas forcément très bien pour lui. Alors, moi, il y a un truc qui m'a étonné par rapport à ce personnage. D'ailleurs, c'est pourquoi, si c'est une race d'extraterrestres qui existe dans la galaxie, pourquoi seulement maintenant il pense à envoyer un tel personnage pour aller faire l'espion du côté de la Terre et chez les Inhumains? Enfin, ça, c'est un truc. Voilà. Pourquoi seulement maintenant ça arrive, ce truc?
Ouais, puis moi ce qui m'a étonné un peu avec cet espion, c'est que il arrive à déjouer la sécurité de toutes les installations et toutes les places fortes comme ça quoi. Je veux dire, il a beau être invisible, etc. Je pense qu'ils ont rencontré, que ce soit le Shield, les Avengers, même les Inhumains, ils ont rencontré suffisamment de races extraterrestres dans leur carrière pour avoir une sécurité un peu plus efficace que ça.
Ouais, sinon il y a Norton Antivirus, hein, qui est vachement
Oui,
bon.
mais
Voilà.
non, le mieux c'est Avast parce qu'il te prévient vocalement.
Non, ou Stark Antivirus, puisque à mon avis dans l'univers Marvel c'est ça qui fonctionne le mieux.
Ouais.
Mais bref, arrêtons de faire de la pub pour tous ces gens. Et donc oui, bah alors non, mais enfin c'est vrai que c'est assez étonnant. Comme tu dis, voilà. Si en plus surtout si c'est une race extraterrestre existante dans l'univers Marvel, bah c'est étonnant que personne ne puisse lutter vraiment contre
Mais
l'intrusion de ce personnage.
je crois que c'est une création d'Hickman, hein. Donc voilà, c'est lui qui a amené ce concept, c'est lui qui a amené tout
Bien
ça.
sûr, bien sûr,
Et
mais
du coup, bah personne les avait vus avant.
tout à fait, tout à fait. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être une explication du style, oui, bah c'est le seul de sa race à avoir survécu à une espèce de génocide. Enfin, parce que voilà, s'il y en a beaucoup d'autres, pardon. Pourquoi lui seulement? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah, du coup, après la dernière partie, c'est Captain America et son équipe qui donc apprennent ce qui se passe dans l'espace actuellement, et que donc bah, Thanos, enfin non, pas Thanos d'ailleurs, certains ennemis visent la Terre. Et plutôt que de les attendre, parce que s'ils arrivent sur Terre, bah c'est la fin des haricots, ils vont directement aller les affronter dans l'espace pour prendre les devants.
Bah même chose que ce qui avait été fait avec le Phénix et AVX au départ, quoi. On n'attend pas qu'il arrive sur Terre, on va lui péter la gueule avant.
Exactement. Et donc ça se termine. Je peux même dire la fin, puisque de toute façon, C'est le pitch même de la série, on savait déjà qu'est-ce qui allait se passer. Donc il n'y a même pas de surprise au fait à la fin, c'est ça que j'attendais. Je me dis, peut-être qu'il va y avoir un twist, un truc qui va vraiment m'accrocher pour m'intéresser à la suite. Bah non, en fait, à la fin, on te dit, t'as simplement Thanos qui apprend que effectivement les Avengers ont quitté la Terre et que donc il a le champ libre pour attaquer à ce moment-là. C'est un petit peu le pitch d'Infinity qu'on te sert depuis des mois. Aussi, il y a un truc aussi qui m'a énervé à la lecture de cette réplique. Il n'y a plus de Avengers. Bah, j'ai envie de dire si, enfin parce que les Avengers, Dickman, ok, c'est ceux-là, mais d'abord il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres dans l'univers Marvel.
Bah, est-ce qu'il prend vraiment en compte les Uncanny Avengers? Il prend déjà pas en compte la destruction du The Peak, donc.
Il y en a plein. Oui, mais il y en a plein. Je dirais même il y a que ça quasiment maintenant des Avengers.
Je suis d'accord un peu avec Benny, parce que si on prend la page de présentation, effectivement, les Avengers, c'est ce qui représente le plus de monde, mais il y a quand même tous ces nouveaux, les Starbrand, etc., les Ex Nihilo, ouais. Tous ceux qui ont été introduits par Hickman, mais sur Terre, il reste encore les Avengers, on va dire, classiques.
Bah oui, en plus. Déjà, il y a Iron Man.
Ils ne sont pas partis dans l'espace.
Voilà. Déjà, Iron Man reste. Enfin, Tony Stark reste, a priori. Ouais. Ce qui est étonnant, puisque d'un autre côté, il est aussi avec les gardiens. Ouais, bon, passons.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment Tony Stark?
Oui, c'est Tony Stark, mais de façon, ce qui se passe avec les gardiens, je crois d'ailleurs que dans le dernier numéro des gardiens, Tony disait qu'il repartait sur Terre, si ma mémoire est bonne. Et deuxièmement, on savait déjà qu'il resterait, puisqu'il y a cette série où on a notamment tous les ennemis d'Iron Man qui s'unissent. Enfin voilà, on savait finalement que Tony Stark resterait plutôt sur Terre.
Déjà il y a ça. Et puis non, mais aussi surtout, enfin ce qui m'agace, c'est que encore la fin, ce serait Thanos qui dit il y a plus aucun super-héros sur Terre. Là, je me dirais ah bah oui, d'accord, effectivement. Mais les Avengers, c'est juste un nom sur quelques personnages, ça veut rien dire. En fait, il y a toujours Spider-Man, il y a toujours Rogue, il y a toujours
Spider-Man a beaucoup affronté Thanos, est-ce que les X-Men ont beaucoup affronté Thanos, à part dans les séries cosmiques de Jim Starlin d'été.
Ben oui, mais les Avengers présents là, qui parlent dans l'espace, c'est pas vraiment les Avengers non plus. C'est Sunblind, c'est des mecs comme ça quoi. Donc tu te dis voilà, c'est tout ça, c'est des paroles quoi. Ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire quoi. Les Avengers ne sont plus sur Terre. J'ai envie de dire bah non en fait. Déjà il y en a toute une partie qui sont encore sur Terre. Là c'est juste une nouvelle équipe de Avengers qui s'absente. Donc et en plus c'est une nouvelle équipe qui n'a pas vraiment encore fait ses preuves. Donc je trouve. Hein, globalement, le pitch même d'Infinity, si tu veux, je le trouve très très bancal et très peu recherché. C'est un petit peu ce que faisait Bendis tout le temps, quoi. Ah bah, pendant que les super-héros sont partis ailleurs, les méchants attaquent. Ah bah, super. Donc là, c'en est un king-sized, quoi. Genre, ils quittent la Terre, enfin, certains quittent la Terre, et du coup, Thanos en profite pour attaquer. Mais, au fait, ils auraient fait un scénario après Age of Ultron où on te dit, tous les super-héros ont perdu leur pouvoir. Et au fait, il manipule un petit peu les super vilains et le monde entier pour laisser croire qu'ils ont toujours des pouvoirs. Et le seul à être mis au courant par son émissaire que les super héros ont effectivement perdu leur pouvoir, c'est Thanos. Et donc, ils décident d'attaquer la Terre. Là, ça aurait été super intéressant. Enfin, là, je me serais dit ah bah oui, tiens, c'est une bonne idée.
Ouais, mais c'était déjà un peu compliqué. Et puis c'est peu ou prou le pitch de Forever Evil, quoi.
Faudra voir parce plus que là, je sais pas
donc,
du tout.
Voilà.
Plus de super-héros, oui, non, mais là, ce serait dans le sens où les super-héros sont là, mais ils perdent leur super-pouvoir, par exemple. Donc, de toute façon, ils servent plus à rien, quoi. Bon, ça aurait changé un petit peu les choses. Là, c'est vraiment, on te dit les Avengers sont plus là, mais au fait, c'est pas vrai. Donc, voilà. Bon, bref, j'ai suffisamment parlé, j'ai résumé un petit peu vite fait, mais est-ce que vous avez des réactions?
Qu'en as-tu pensé,
justement,
toi, de Infinity?
Alors, je suis très très partagé sur ce numéro. De une, parce que j'ai pas compris grand chose. J'ai pas compris en fait tout ce qui faisait référence aux New Avengers, parce que j'ai lu les deux premiers, il me semble, et après je me suis arrêté. Faut que je rattrape mon retard.
Ah, tu as l'AVF pour ça, qui
mis à part les deux premières pages, je pense que t'as pas grand chose qui fait vraiment référence aux New Avengers.
Non, mais il y a le truc des Builders, je m'en souvenais absolument pas.
Ah bah non, mais ça c'est alors je crois que c'est dans Avengers que
c'est dans Avengers.
On te parle des builders.
j'ai dû occulter ce truc.
On en entend parler plus qu'on les voit agir d'ailleurs.
Oui, mais enfin, de toute façon, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que bah voilà, c'est les créateurs, ils sont là depuis longtemps, et puis basta quoi.
Ouais, non, ça mais se résume. Après, j'ai bien aimé, je trouve que c'est super bien raconté. Le storytelling est vachement bien fait, c'est découpé en chapitres et tout. On n'a pas l'habitude de voir ça dans un single, même si c'est un double épisode, comme l'a dit Steve, il fait un peu plus de 50 pages.
Ouais. Pour seulement 4,99 en plus.
Voilà, en plus. Donc c'est vraiment bien raconté. Les dessins sont super chouettes en plus de Jim Chung. Voilà. Pour moi, ça sera ma note, je la dirai tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut avoir une solide connaissance du Marvel Now, notamment des séries d'Hickman.
Bah oui, voilà, c'est vraiment le Hickmanverse, voilà. Hein, comme le disait Benny tout à l'heure. Ouais.
Pour apprécier pleinement ce comics, pleinement cet event. Mm-hmm. Ouais. Et toi, Steve ?
Moi, de mon côté, déjà, ça a été long à lire, ça a été très long. Bon, parce qu'en plus j'étais pressé par le temps pour le lire, donc j'en voyais pas le bout. J'étais mais putain, quand c'est que ça s'arrête ce truc. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir un vrai double épisode en début d'event. On outille ce gros event depuis tellement longtemps que c'est vraiment intéressant qu'ils justement ils prennent le temps de bien poser les bases.
Ouais.
En plus, ils réexpliquent certains personnages qui vont devenir importants. On le sait déjà comme Black Bolt des Inhumains. Avec toute cette séquence où on lui lit ses pensées et on réexplique vaguement le personnage. Et on rappelle pour ceux qui ont oublié que c'est un joli polygame, hein, qui se tape des chevaux en plus.
Oui.
Scène qui m'a fait mourir de rire, honnêtement. Voir cette tête de cheval, je me suis imaginé Black Bolt en train de faire des trucs bizarres. Bref. Et après, j'ai imaginé une scène un peu le parrain et j'ai aussi beaucoup rigolé. Bref, non, c'est vraiment bien raconté. Bon, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu le problème. C'est que effectivement, il faut une bonne connaissance, comme tu l'as dit, du Hickmanverse. Il faut quand même aussi une relative connaissance de l'univers Marvel en général, des Kree, des Skrulls, etc. Parce que on parle beaucoup, beaucoup de ces races-là. Le seul truc qui me gêne, c'est ces Builders, quoi. Parce que voilà, une race qui a créé une race, qui a créé toutes les autres races. Putain, on nous avait déjà fait le coup avec les Célestes, avec tout ça. Eh ben non, il y a encore mieux que les Célestes. Il y a encore des gens qui les avaient créés. Ouais. C'est relativement facile comme procédé, je trouve.
Oui, voilà. Puis c'est un petit peu, c'est moi qui ai la plus grosse. En fait, c'est Hickman qui dit ah bah je vais sortir un truc encore plus au-dessus des autres et ce sera ma création. Donc voilà.
Oui, mais moi, c'est ça qui me gêne, c'est que bon, il y a déjà une grosse mythologie Marvel. Rajouter une couche, surtout qu'elle est facile. Voilà, je veux dire, c'est facile. Ah bah, non, il y a encore une race qui avait créé au-dessus.
Oui, puis surtout, à quoi ça sert? Pourquoi?
Et dans 5 ans, voilà, dans 5 ans, on refera un truc en disant, ah bah, en fait, il y a encore des gens qui avaient créé ces gens-là.
Non, mais enfin, pourquoi? En fait, est-ce qu'on pouvait pas utiliser les anciens personnages déjà pour ça, pour faire cette histoire? Parce que c'est vraiment une histoire qui tient sur un ticket de métro. Les gentils ont une raison d'aller dans l'espace. Et du coup, il laisse le champ libre sur Terre. Bon, enfin, voilà, ça se résume vraiment à ça. Hein. C'est vraiment.
Ouais, mais là, Hickman, voilà, comme le disait tout à l'heure Steve, il crée son truc. Et voilà, ce qui a été fait à côté, c'est pas qu'il s'en tape, mais un petit peu quand même, quoi.
Bah, si, clairement, je pense qu'il s'en tape un peu. Et puis non, mais c'est surtout que il fait toujours très compliqué. Pour raconter un truc super simple.
Bah, moi, je le trouve pas si compliqué que ça, ce premier numéro. Hein.
Non, moi non plus.
Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est qu'il est très dense et très riche, ce qui le rend complexe par la multitude de personnages. Mais en termes d'histoire, on a vu du Hickman 10 fois plus compliqué.
Oui, non, c'est pas ça. Mais c'est que dans la narration, si tu veux, t'as l'impression qu'il veut te raconter un truc où tu vas te dire « Oh putain, ah oui, oh quelle idée extraordinaire !» Mais en fait, non, en fait, ça n'arrive pas. Et moi, je vais être beaucoup plus négatif que vous, d'ailleurs, parce que au fait, à chaque étape, à chaque chapitre de cette histoire, bah, je suis pas rentré dedans. J'ai terminé ce numéro en me disant, est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite? Et au fait, vu que c'est vraiment un truc qui se passe dans le Hickmanverse actuel et ce qu'il fait sur les Avengers, et que ça m'intéresse pas du tout, à la rigueur, New Avengers m'intéressait un peu plus, mais sans plus. D'ailleurs, j'ai loupé les trois derniers numéros au moins. Voilà, bah je sais même pas si je vais m'intéresser à cet event et continuer à le lire, parce que ça le pitch me laisse de marbre. Je préfère nettement, par exemple, ce qui se passe dans Uncanny, ça m'intéresse beaucoup plus.
Tu as l'avantage d'avoir deux histoires réelles dans cet event, et c'est aussi peut-être ce qui fera la force de cet event-là comparé au dernier, dernier au pluriel d'ailleurs, c'est que tu auras cette histoire qui se passe dans l'espace avec les Avengers qui vont essayer de fighter les Builders, et on aura aussi cette histoire sur Terre avec Thanos qui débarque et qui va essayer de foutre la merde et mais prendre possession
l'une...
de la Terre.
Ouais, mais ni l'une ni l'autre ne m'intéresse, et en fait, le cosmique était vachement intéressant avec Dan Abnett et Andy Lanning, alors que moi, le cosmique, au début, j'en avais rien à faire, et ça m'avait vachement intéressé avec eux, et ça m'intéresse toujours avec ce que fait Bendy sur les Guardians, par exemple, mais là, honnêtement, ce que fait Hickman sur le cosmique, mais je m'en contrefou, et limite, cette histoire me fait penser à l'intérêt que j'avais eu face à The Rise and Fall of the Shi'ar Empire par Brubaker, quoi. J'ai l'impression que je suis parti dans une histoire comme ça, et je m'en fous, mais complètement, en fait.
Mais moi, j'attends de voir les parties qui vont se passer sur Terre, qui m'intéressent plus que les parties de l'espace, mais on peut avoir de bonnes surprises, donc je vais rester prudent, quand même. Mais c'est vrai que je suis vraiment plus intéressé par la partie avec Thanos qui débarque sur Terre, et notamment cette nouvelle équipe d'Avengers qui pourrait débarquer avec le retour de Luke Cage et compagnie. J'attends de voir ça, en fait. Après, ouais. On verra. Peut-être que je serai extrêmement déçu, et voilà, ça s'arrêtera là. On va peut-être passer aux notes maintenant, et puis on va avancer sur la suite de l'émission. Ouais. Benny, ta note ?
Pour moi, ce sera juste un check-it. Je suis... Enfin, voilà, je suis pas intéressé réellement par ce truc-là. Je m'en fous un peu, quoi.
D'accord. Nono ?
Moi, ça sera un bon check-it. Parce que j'ai vraiment envie d'aller voir la suite. En plus, vous savez, je suis fan d'Event, donc...
Ouais, on a vu ça, ouais.
Pour moi, ce sera un bail, étonnamment. Même si je reste assez mitigé sur ce numéro-là, ça vaut 4,99€. Il y a énormément de lectures, c'est un comic, vous en aurez vraiment pour votre argent, et ça vaut le coup de voir si on a envie de suivre ou pas, en fait. Donc, ça vaut vraiment le coup de l'acheter, je pense. On est servi par la quantité, et puis la qualité, c'est vrai. On en a parlé vaguement, mais les dessins de Jim Chung sont vraiment très très bons, donc en plus, c'est très joli à regarder. Donc voilà, on peut se faire plaisir avec ce premier numéro d'Infinity.
Ouais.
On va passer à la suite du Marvel Universe avec toi, Nono, qui va nous parler du 11e numéro de Thor.
Oui, Thor numéro 11, cinquième et dernière partie du deuxième arc qui s'appelle God Bomb. On peut même dire que c'est la dernière partie de le dernier épisode de tout le début de ce renouveau de Thor. Là, avec ce 11e numéro, on conclut vraiment ce qui a été fait depuis le premier. Donc Jason Aaron au scénario, comme d'habitude, et Chad Ribic également au dessin, et Yves Vorkstina à la colorisation. Donc on avait laissé Thor, les trois Thor qui étaient dans le futur avec Gore, donc le tueur de dieu, le God Butcher, et un Thor, on va l'appeler le Thor des Avengers, qui est au milieu de cette bombe et qui essaye de l'arrêter. Il récupère les deux marteaux, donc les deux Mjolnir, donc le sien plus celui du Thor vieux, donc le Thor qui est le roi d'Asgard, qui a pris la place d'Odin.
Oui, parce qu'on a vite rappelé, très très vite, que ouais, le Thor du passé a lui une hache et n'a pas encore Mjolnir.
Voilà, il n'a pas encore réussi à... Il n'est pas encore assez worthy pour avoir ce marteau. Et donc il va tout faire, le Thor des Avengers va tout faire avec ses deux marteaux pour empêcher cette bombe d'exploser.
Ça doit être la méga classe quand même d'avoir un Thor à deux marteaux.
Ah, l'image où il est avec ses deux marteaux, elle pète vraiment, elle troue son slip, comme dirait l'autre.
Ça valait bien le coup, hein.
Qui va acheter la planche originale, hein? Qui?
Moi, je vais l'acheter pour vous. Pour bien vous dégoûter.
Je pense que je vais inviter Sad Ribic l'année prochaine au LCF. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que ça serait spoiler la fin de ce magnifique arc, parce que j'ai vraiment vraiment bien aimé toute cette série, ces 11 numéros de Thor. Je les ai rattrapés la semaine dernière. Je les ai lus d'affilée les 10 premiers, parce que je les avais pas lus à l'époque de la sortie, et je les ai achetés en digital, et je me suis régalé à les lire tous d'affilée.
C'est pratique d'avoir un iPad maintenant.
Ouais, c'est clair.
Chez Marvel, les comixologies vont beaucoup t'aimer bientôt.
Ouais, bien, je vais devenir leur meilleur copain. Et voilà, donc c'est vraiment une très très bonne conclusion, une conclusion sans vraiment de grosses surprises, hein, parce que je veux dire, voilà, on se doutait dès le début de comment ça allait se terminer, de quelle allait être la finalité de la chose. Mais Jason Aaron a réussi à mener à très très bien mener sa barque pendant ces 11 numéros. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la suite, parce que bah voilà, là ça fait 11 numéros qu'on a cette histoire en filigrane de Gore the God Butcher. Qu'est-ce qu'il va faire après? C'est une excellente question.
Je crois qu'il avait dit qu'on reverrait quand même ces deux torts passés, et futurs. Je crois, mais ça resterait à confirmer quand même.
D'accord. Parce que bon, tout se finit bien pour les trois torts, hein, les torts.
Tortue Ninja.
Voilà, Tortue Ninja. Ah, il y en manque un. donc voilà, c'est vraiment une excellente série que je conseille à tout le monde. Jetez-vous sur les TP quand le deuxième sortira, parce que ces 11 numéros font vraiment un tout. C'est deux arcs distincts, mais voilà, c'est vraiment un ensemble sur ces 11 numéros. Donc allez-y, lisez-le. Pour moi, c'est un bail. J'irai voir le prochain avec beaucoup beaucoup d'intérêt. J'ai pas parlé des dessins des Sadribic, mais c'est magnifique, quoi. Il a assuré la qualité sur tous ses numéros, vraiment.
Ah, ce serait peut-être bien pour le prochain arc, au moins, d'avoir un Thor un peu plus terrien qui revient relativement à ses racines avant de repartir sur une aventure assez épique comme ça. Juste histoire de nous poser un peu, nous faire une petite pause, quoi.
Là, apparemment, à la dernière page, c'est marqué Next Issue, Thor Returns to Midgar. Donc, apparemment, il reviendrait sur Terre.
Ouais, ce serait pas mal. Juste au moins un petit break pour qu'on puisse souffler avant de repartir avec un truc énorme, comme il a su nous le faire sur ses 11 premiers épisodes.
Ouais. Donc, allez-y. C'est du tout bon. C'est une très bonne conclusion à ce long arc.
On va passer à la suite et on va parler d'un début d'arc cette fois-ci. C'est la sortie du 8e épisode de Wolverine, scénarisé par Paul Cornell avec des dessins d'Alan Davis et ancré par Mark Farmer. Équipe relativement classique maintenant, hein. Alors, j'y suis allé, je ne lis pas Wolverine, j'avais lu le premier, ça m'avait saoulé, j'avais arrêté. J'y suis allé simplement parce que c'est le début de ce nouvel arc qui s'appelle Killable, hein, donc tuable. Wolverine a perdu. Alors, je suis désolé, Nono, tu as rattrapé les torts, tu aurais dû rattraper Wolverine, je vais être obligé de légèrement spoiler. Je sais que tu as deux numéros de retard.
Ouais.
En même temps, Marvel a tellement communiqué là-dessus que ça se sait. Wolverine a perdu son facteur auto-guérisseur.
Ah, ça y est, ça arrive maintenant.
Voilà, et c'est le début de cet arc où il est maintenant mortel. Et il va essayer de poursuivre cette espèce de virus échappé du Microverse qui s'est infiltré au Wakanda. Et donc, il va débarquer et se faire, ce que l'on voit sur la couverture, soit faire patater par le Black Panther. Mon Dieu. Non, enfin, franchement, c'est pas mal écrit, loin de là. C'est juste que j'ai pas été intéressé. Ils vont essayer de faire sortir ce virus et il va leur arriver plein de trucs et on va voir aussi les relations. Oui.
Pardon. Est-ce qu'on sent qu'il est vraiment en danger sans son facteur auto-guérisseur ou c'est comme dans le film là, que du reste pas si mal. Mais franchement, le problème c'est qu'on sentait pas du tout qu'il était en danger même sans son facteur auto-guérisseur.
Mais le problème, c'est quoi? Pour le moment, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est juste un peu battu avec Black Panther. Mais c'est surtout les autres personnages qui réagissent à la perte de son facteur auto-guérisseur plutôt que lui. Et c'est les autres qui ressentent plus le danger que Wolverine lui-même. Pour le moment, Wolverine ne ressent pas vraiment le danger. On a un Wolverine relativement classique et des personnages qui s'inquiètent pour lui. Et lui, il fait « Ouais, rien à foutre. » Voilà. Donc bon, pour le moment, on peut pas dire vraiment qu'il soit mortel. Et moi, je continue de trouver que c'est une idée de merde. Vraiment une idée de merde d'enlever le facteur auto-guérisseur de Wolverine. Ça ne sert à rien. Ils n'auront jamais les couilles de le tuer de toute façon.
Je pense honnêtement, c'est juste un gadget d'un arc, hein, que ça va dans la durée.
Et puis pour être à peu près raccord avec ce qui sortait au cinéma. C'est tout.
De toute façon, soyons honnêtes, cette nouvelle série Wolverine est... n'est pas très bien, quoi. Clairement, même le premier arc, si j'ai deux numéros de retard alors que les deux numéros sont en bas dans mon salon, c'est qu'il y a une raison, c'est que je suis pas hyper pressé de les lire.
Non, c'est que t'as une grande maison.
et que je les ai pas retrouvés.
C'est que tu mets 2 jours à descendre à l'autre bout.
Ouais, à peu près. J'ai un palier qui me permet de faire des compressions. Voilà. Mais non, mais c'est, cette nouvelle série de Wolverine est franchement pas terrible. C'est dommage d'avoir relaunché pour ça.
Mais moi, je trouve que Paul Cornell s'en sort pas trop mal au niveau de l'écriture, hein, de ce que je vois. C'est juste que bah, je trouve pas ça intéressant, en fait. Puis bon, c'est peut-être le syndrome Wolverine, le voir partout.
Ouais.
Voilà, c'est peut-être ça. Cependant, moi, il y a juste une question qui me taraude. Est-ce que l'un de vous lit encore Wolverine and the X-Men? Que moi, j'ai énormément de retard, donc je ne suis plus du tout. Mais si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans ce numéro, Wolverine et Storm auraient peut-être une petite aventure ensemble.
Bon, bah, personne il aurait tort de s'en priver, quand même.
De toute façon, moi j'en sais rien, je sais pas, je les lis pas, mais...
D'accord, non mais parce qu'apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, ça daterait peut-être de Wolverine the X-Men numéro 24, d'après ce que j'ai pu voir dans les crédits, mais je suis pas certain, et donc ça pose quelques petits soucis entre Wolverine et T'Challa, puisque Storm est bien présente. Hein. Donc,
bon. Ah, tu dis T'Challa, moi j'ai toujours dit T'Challa.
Non, moi T'Challa. J'ai dit T'Challa, il y a une apostrophe, je sais pas.
T'Challa. Moi je dis T'Challotte.
Donc, je vais dire un check-it moins, voire un pass. Moi, je me suis pas. C'est mon avis personnel, ça m'a pas intéressé. Et maintenant, peut-être que pour les fans de Wolverine, peut-être que Nono, tu trouveras cet épisode très bien. Je sais pas. Moi, pour moi, c'est un check-it moins, tendance passe, quoi. On va terminer avec toi, justement, Nono, qui va nous parler du 8e épisode de Avengers Arena. Non, pas du 8e.
Non, du 13e.
Du 13e. J'ai mal écrit sur le conducteur, je sais pas pourquoi j'ai dit 8. Du 13e épisode d'Avengers Arena, une de tes séries phares du moment.
Ouais, c'est vraiment la bonne surprise. Je le dis à chaque fois que je le chronique cette série, mais c'est vraiment la bonne surprise de ce Marvel No. Mais pas avec cet épisode, malheureusement. Ça s'explique certainement par le changement de scénariste. C'est Christos Gage au scénario. D'habitude, c'était merde, j'ai oublié son nom. D'habitude, c'était Denis Oplès qui a assuré les 12 premiers numéros, et là, c'est Christos Gage. Et c'est un numéro qui ne se passe absolument pas sur le Murder World. On ne voit absolument pas les protagonistes.
On nous avait prévenu qu'il y aurait des numéros comme ça.
Oui, ouais, certainement. Mais moi, je lis pas les sollicitations. C'est un truc que je ne fais jamais.
Non, non, on nous avait prévenu dès le début de la série que on verrait aussi ce qui se passe à l'extérieur de temps en temps.
Ouais, mais c'est bien de mixer aussi, pas faire que un épisode où on voit pas du tout les jeunes. Tu vois, là, c'est le fameux épisode qu'on attend depuis le début et dont on a souvent parlé ensemble. C'est le fameux épisode du. Est-ce que le reste du monde sait qu'ils ont disparu?
Ouais, c'est un petit peu. Ça me fait penser à Lost, quoi. C'est un petit peu le problème d'ailleurs dans une série comme ça, c'est tu veux voir la suite de ce qui se passe sur l'île, entre guillemets, hein, là c'est pas une île, mais oui. Enfin voilà, et finalement d'un seul coup tu lis un épisode où tu dis ah bah merde c'est pas la suite, c'est on me montre tel autre personnage qui est dans le monde réel, et tu vois ce qu'il est en train de faire pendant ce temps-là quoi.
Ouais. Alors moi je lis pas, enfin j'ai beaucoup de retard hein, sur cette série, donc voilà, mais
pareil.
Est-ce que c'est pas plus mal que justement, bon, Christos Engage n'est pas un débutant, il a déjà géré des équipes de jeunes avec Initiative ou Avengers Academy, mais est-ce que c'est pas plus mal de laisser à Denis Oplès juste le contenu intérieur de Murder World, chose à laquelle on est habitué depuis le départ, et de laisser Christos Engage faire autre chose, justement, ne pas empiéter sur les plates-bandes et avoir deux caractérisations de personnages qui sont pas exactement les mêmes?
Bah là, disons qu'il y a pas de caractérisation de personnage, parce que là on ne parle absolument, bah on ne voit, on en parle beaucoup bien évidemment, mais on ne voit absolument pas les personnages de Avengers Arena.
Oui, c'est-à-dire justement, est-ce que c'est pas plus mal justement de bien laisser toute cette caractérisation qu'a essayé de mettre en place Denis Oplès depuis le départ, et de pas que ce soit dérangé par quelqu'un qui aura pas la même approche des personnages.
Oui, certainement. Mais moi, c'est un épisode qui m'a pas forcément plu. Donc, je suis content. J'en discutais justement avec toi, Steve, hier au téléphone. Je suis content d'avoir enfin lu les Runaways, les fugitifs en VF, parce que là, on fait beaucoup référence à toute la période des Runaways. En fait, c'est Molly, l'une des Runaways, qui s'inquiète parce que ça lui semble bizarre que Nico and Chase soit parti, et du coup, elle va voir Hank Pym, qui est toujours headmaster de la Avengers Academy, pour essayer de qui mène l'enquête. lui il va mener l'enquête et il va se rendre compte que tous ces jeunes ont disparu en même temps et que ça n'inquiète personne parce que c'est des ados, parce qu'ils ont c'est tous des ados à problème avec des familles pas forcément évidentes et il va aller voir un peu tout le monde. Au niveau de la chronologie, ça se passe, c'est précisé dès le début, ça se passe avant le.
Ça c'est bien, c'est intelligent.
Ouais. Ça se passe dès la page de crédit, ça se passe avant le Wolverine and the X-Men 28. Donc ça remonte quelques mois en arrière, quoi.
Pas tant que ça.
Ouais, un mois ou deux quand même.
Ouais, 2-3 mois max. Ouais. Quoi, max.
Et voilà. Donc en fait, tout l'épisode, il va chercher pourquoi ils sont partis et en fait, ça n'avance absolument pas. C'est-à-dire que il ne comprend pas pourquoi ils sont tous partis en même temps. Tout le monde lui dit de pas s'inquiéter et du coup, il s'inquiète pas. Voilà.
Alors là, par contre, ça c'est vraiment nul.
Ouais. Donc pour moi, cet épisode est un pass. Pour l'instant, il n'apporte strictement rien à l'histoire. Peut-être que on va revenir plus tard sur un épisode avec Hank Pym qui va partir à la recherche des jeunes, mais là
le problème c'est qu'au fait ça tiendrait en une page, quoi, c'est ça?
Ouais, complètement. C'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on ne voit pas du tout les jeunes, parce que cette histoire n'avance absolument pas.
Puis bon, Hank Pym il va pas franchement aller chercher les jeunes puisqu'il est occupé dans Avengers et Arrive, rappelons-le.
Ouais, mais là non, il est pas du tout dans cette optique-là.
Avant Wolverine and the X-Men 28, donc ça doit être avant la fin de Jeff Ultron, donc ouais. Normalement Avengers AI, l'équipe n'est pas encore constituée.
Oui, et puis les jeunes de la Jean Grey School sont pas encore partis de l'autre côté, etc. Il y a pas mal de trucs qui sont pas actuels, quoi.
Très bien. Donc un pass pour ce Avengers Arena numéro 13.
Ça me fait mal au cœur de dire ça parce que c'est vraiment une série que j'affectionne, mais ce numéro 13, vous pouvez le passer.
Oui, bah en même temps, c'est pas forcément dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas indispensable. C'est tout. C'est vraiment un pass de si vous avez pas assez d'argent, on vous appelle au cas.
Ouais, voilà, complètement.
Très bien. On va passer maintenant à notre partie indé et on commence avec Mr. Ronnie Bunny qui n'a pas dit grand-chose depuis longtemps puisque Monsieur ne lit pas de Marvel, hein, c'est pas bien.
Si tu le dis.
Non, mais j'attendais une réaction quelconque. Mais en revanche, il a lu le X-Files saison 10 numéro 3 et il nous en parle tout de suite.
Oui, alors Chris Carter au scénario, mais essentiellement en fait épaulé de Joe Harris, hein, qui fait l'essentiel de l'histoire, avec des dessins de Michael Walsh. On retrouve en fait cette fois-ci l'agent Reyes que tu réclamais, Steve, à corps et à cri.
Eh oui.
Voilà, qui se retrouve un petit peu comme l'agent Doggett dans l'épisode précédent en mauvaise posture. Elle enquête sur ces étranges disparitions liées aux événements qui s'étaient passés dans les saisons précédentes d'X-Files. Il se passe encore pas mal de choses dans cet épisode. Il y a notamment une grosse discussion entre Mulder et, on va le dire, l'homme à la cigarette qui est revenu.
Sur la cover.
Oui, qui est revenu encore une fois d'entre les morts. Oui, mais enfin, on pourrait penser que c'est un flashback là sur la cover. Or, il est bien de retour, l'homme à la cigarette, et savoureuse discussion, très bon dialogue entre les deux. On sait pas. En tout cas, c'est vraiment. On est toujours dans l'ambiance de la série. On entend les voix des personnages parce que ça sonne vraiment juste, quoi. C'est très très bien fait. Et puis il y a aussi ce qui se passe avec Scully. Alors là, elle est carrément au cœur de l'action, confrontée à ces étranges personnages elle entend parler. C'est la première fois qu'ils sont mentionnés sous ce nom-là, les acolytes, qui seraient au fait liés à ce complot extraterrestre dont on entend parler depuis les débuts d'X-Files, et là qui commence à prendre forme sérieusement avec les années qui passent. Et cette fin aussi, gros clin d'œil, énorme clin d'œil aux fans d'X-Files, avec Mulder qui décide de prendre les choses en main et qui ressort un ustensile bien connu, je voulais le dire avec un petit peu de finesse, hélas. Voilà. Donc, mais en tout cas,
vu la taille de ce que l'on voit, elle est très fine. Oui.
Oui, c'est un indice. Ça pourrait y faire penser. En tout cas,
va repartir avec ça, vas-y.
Oui. En tout cas, c'est toujours très très bon. Et c'est vraiment une lecture que je conseille à tout le monde. Alors évidemment, plus encore aux fans de la série, hein, puisque on retrouve totalement cette atmosphère. Très très bonne saison 10. Voilà, c'est comme si on avait une saison 10 en bande dessinée, bah pourquoi pas. Et ça fait vraiment plaisir.
Alors moi je la conseillerais pas à tout le monde, hein. Je la conseillerais essentiellement aux fans du show. Si vous n'avez jamais regardé le show, c'est même pas la peine d'essayer.
C'est vrai,
vous
oui, non.
Rien. Vous ne comprendrez ouais. rien du tout. Il faut vraiment des bases. Tu vois, tu parlais de cette scène d'intro avec l'agent Reyes et justement l'enquête qu'elle mène. Et c'est la première fois des trois épisodes. Bon, on est qu'au troisième, c'est sûr, mais...
Oui, que tu ne connais pas là.
Non, c'est pas ça, mais on voit la scène d'intro et en bas de page le bandeau X-Files avec le nom de l'épisode. Et là, d'un seul coup, j'ai entendu le générique dans ma tête démarrer, quoi. D'habitude, ça me le faisait pas, mais alors là, c'était vraiment une scène d'intro typiquement série télé.
Ouais, et bah tu vas le chanter ce générique, tiens, d'ailleurs.
Pas du tout, parce que j'ai pas envie. Voilà. Mais sinon, bon, comme tu l'as dit, l'épisode est très très bon. Chaque personnage a son importance. Même Skinner, on le revoit passer encore une fois dans cet épisode. Non, excellent épisode. Cette série est vraiment très très bonne. Je suis agréablement surpris de la tournure que ça prend.
Si ça doit sortir en français, ce serait chez qui? Alors Soleil, il y a les droits, peut-être X-Files, je ne sais pas.
Ah, j'en ai aucune idée. Bah, peut-être que ce sera renégocié, étant donné que maintenant c'est chez IDW,
ouais.
Et qu'avant c'était chez Onipress, donc peut-être qu'un changement d'éditeur fait un changement de droit. À voir ouais. si les droits sont à négocier auprès de Chris Carter ou auprès de la boîte de comics elle-même.
En tout cas, je pense que ça peut avoir sa place sur les étalages en France, et qu'il y aura beaucoup de fans qui seront pressés de lire ça, et c'est vraiment très bon.
Oui. Et surtout, cet épisode est vraiment... un épisode clé dans cet arc-là qui est, je le rappelle, en 5 parties, puisque enfin, on comprend les enjeux qu'on avait vu poser dans les deux premiers, on a les réponses, on sait que ça fait partie de la conspiration, et que les choses avancent, et ça, c'est vraiment bon de revenir là-dessus. J'avais des doutes, est-ce qu'ils oseraient revenir là-dessus dès le premier arc? Bon, bah,
ah oui,
en plein dedans,
ça,
et c'est tant
ça
mieux.
Démarre très fort, ça démarre très très fort.
Donc, gros, gros bail hein, pour ma part.
Pareil.
On passe à Nono maintenant, qui nous parle toujours d'un produit indé, qui nous parle d'Astro City numéro 3.
Oula, j'ai pas ouvert le bon, merde. j'étais parti sur un autre. Donc Astro City numéro 3, au niveau des crédits, nous sommes sur...
Déjà, une production Vertigo.
Oui, une production Vertigo, tout à fait. Donc, on est sur Kurt Busiek au scénario et Anderson au dessin. Je n'ai absolument pas lu la première salve d'Astro City qui est parue il y a quelques années maintenant.
Les premières salves, même.
Comment ?
Les premières salves.
Les premières salves, ouais. C'est un retard que je compte rattraper prochainement. Et je me suis lancé dans cette série, parce que quand vous l'aviez annoncé dans le Weekly News, c'était prévu que ce soit pas obligatoire d'avoir lu les premières séries pour comprendre. Et effectivement, c'est bien résumé, etc. On peut se lancer dedans sans avoir lu les anciens épisodes. Donc là, depuis le numéro 2, on suit une jeune femme qui s'occupe en fait du call center des super-héros et qui s'est rendu compte qu'elle a fait une boulette, c'est-à-dire qu'elle a...
fait caca.
Non, mais pas loin. Elle s'est chiée dessus, on peut le dire. Donc en fait, elle a reçu un appel qu'elle a jugé anodin. D'une petite fille qui disait que sa mère se faisait taper. Elle envoyait les services sociaux et le problème, c'est que les services sociaux se sont fait trucider. Les flics sont arrivés, ils se sont fait trucider. L'armée est arrivée, ils se sont fait trucider. Et là, c'est les super-héros qui sont arrivés et c'est la grosse baston. Et donc elle se dit que
on dirait une blague, hein. On dirait une blague, tu sais. Machin arrive, il se fait trucider, truc mouche arrive, il se fait trucider, les héros arrivent, ils se font trucider, et à la fin, c'est Toto, tu sais, qui sort avec...
Non, pas là. Mais Toto n'est pas là. Mais, donc en fait, elle va aller elle-même là-bas pour les aider, donc elle va quitter son job, quitter sa famille, pour aller les aider, aider le peuple, et retrouver cette petite fille et cette maman qui ont disparu depuis le gros boom de la grosse guerre qui a éclaté là-bas.
Elle se sent vraiment coupable, dis donc.
Ouais, elle se sent vraiment coupable parce que ils sont opérateurs téléphoniques hein, en quelque sorte, et ils attendent d'avoir la grosse embrouille qui va les faire bander en quelque sorte, quoi. Le truc qui va leur faire dire putain, je fais vraiment un chouette métier et là je vais sauver des millions de vies, etc. Donc ils ont eu des consignes de dire bah voilà, si ça vous paraît anodin, vous appelez, vous envoyez les services sociaux, vous envoyez la police locale, etc. Et là elle s'est laissée avoir par ça. Elle a pas fait les recoupements nécessaires, elle a pas fait les recherches nécessaires. Et là vraiment elle se sent coupable, donc elle va là-bas. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une série super-héroïque qui ne s'intéresse pas aux super-héros. Alors je sais pas si avant c'était comme ça aussi, mais là on voilà, les super-héros d'Astro City sont vraiment en filigrane derrière, et on s'intéresse vraiment plus à ce qui se passe autour, aux conséquences de leur travail, à toute l'organisation qu'il y a autour d'eux. Et pour moi, c'est mon coup de cœur de la semaine parce que c'est vraiment une série hyper hyper intéressante.
Alors c'est pas toujours comme ça. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où tu vas suivre vraiment un super-héros. Tu vas en suivre plein. En fait, c'est tout l'intérêt d'Astro City, c'est que tu vas vraiment suivre l'évolution de cette ville avec ses différents super-héros, les différents personnages qui les côtoient, etc. Quoi.
Moi, ça me fait penser, là, dans ton pitch, à Frontline, à l'époque de Civil War, où on suivait ces humains qui faisaient face aux conséquences des actions des super-héros, quoi.
Mm-hmm. Ouais.
Voilà. Non, mais j'essayais de dire un truc intelligent.
Blanc.
Alors, je vais dire bitcouille et chatte aussi, puisque voilà, faut quand même dire des trucs assez intelligents pour que ça fonctionne.
Non, mais c'est vraiment une très très bonne série. Je la conseille vraiment à tout le monde. Allez-y, n'ayez pas peur de ne pas connaître l'historique d'Astro City pour vous lancer dans cette nouvelle version. C'est pas un reboot, c'est vraiment la suite, d'après ce que j'ai cru comprendre.
Oui, oui.
Mais c'est entièrement lisible sans avoir lu tout ce qu'il y a avant. Donc allez-y, c'est un gros bail pour moi. Comme je t'ai dit, c'est mon coup de cœur de la semaine.
Très bien, on va continuer avec un produit Image maintenant. Mr. Bunny va nous parler de The Walking Dead numéro 113.
Ouais, alors Walking Dead numéro 113 par Charlie Adlard et puis Robert Kirkman. Alors là, franchement, Rick se retrouve dans la pire situation qu'il ait jamais fait face en 100 et quelques numéros. C'est vraiment la merde totale. C'est vraiment le boxon. Et c'est un épisode sous haute tension. Tout le monde est menacé. Tout le monde peut y passer. C'est vraiment atroce. Enfin, en tout cas, c'est jouissif pour un lecteur. Et c'est le genre de comic, au fait, tu commences à le lire, c'est impossible d'arrêter. Tu reçois un coup de fil, tu réponds même pas. D'ailleurs, t'entends même pas le téléphone sonner. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est la troisième guerre. Tu t'en rends pas compte. Tu t'arrêtes pas tant que t'as pas fini ce numéro. Et juste pour ça, bah c'est génial, quoi. C'est vraiment toujours une expérience de lecture unique. C'est vraiment
c'est toujours aussi bon.
Bah écoute, il y a eu un petit ventre mou après le numéro 100. C'était pas mauvais, loin de là, hein. C'était toujours Walking Dead, donc c'est toujours du bon niveau. Mais il y a eu un petit ventre mou. Et là, franchement, c'est voilà. C'est juste génial, on peut pas lâcher ce comic, quoi, c'est incroyable. Donc pour moi c'est un mégabail, un coup de cœur, et Kirkman qui revient vraiment en grande forme après quelques épisodes que j'avais trouvé moins bons. Et là vraiment c'est du grand art.
Voilà. Très bien. Donc ouais, gros bail, gros coup de cœur.
L'art
comme
de dire,
fois, en fait, hein.
Oui, mais pas forcément. J'avais oh, quelques
retenues. Ces derniers mois, si ouais. The Walking Dead, chaque fois que tu le lis, c'est ton coup de cœur de la semaine.
Oui, ben oui, et en fait, ça augmente de plus en plus, quoi. Là, voilà, c'est vraiment.
Tant mieux si ça redevient ce que c'était fut un temps. Tant mieux, quoi.
Là, c'est une leçon de storytelling, quoi. Il y a même un twist que j'ai trouvé. Enfin, tu lis le truc, tu te dis, oh non. Et puis après tu tournes la page et tu fais ah bah oui d'accord, c'est ça au fait. Enfin, voilà, c'est il te fait douter, enfin c'est incroyable. Franchement ceux qui ont arrêté la série devraient vite la reprendre parce que c'est génial.
Très bien. À noter que chez Image, nous avons aussi le retour de Saga cette semaine. Je ne l'ai pas lu tout simplement par manque de temps parce que j'ai envie de prendre mon temps pour le lire et pas le lire à l'arrache pour ce Comics Weekly.
Voilà. Mais tu l'as pas lu, Bunny?
On va terminer notre partie indé avec un produit Dark Horse, un produit que j'adore, qui s'appelle Resident Alien. Alors, cette fois-ci, ça s'appelle The Suicide Blonde, hein, un peu en hommage à cette chanson d'In Excess, classique des années 80.
Oui, qui a été reprise par Dalida.
What the fuck?
Ou Marilyn Monroe, le Suicide Blonde.
Ah oui, oh, d'accord. Oh, oh, c'était joli. Ah, c'était ouais. Superbe. Je l'avais pas vu comme ça. J'ai vraiment cru que Dalida avait repris cette chanson. De toute façon, au niveau des moments de mort, de toute façon, ne pouvait pas correspondre si j'avais réfléchi deux secondes.
Oui. C'est pour ça que j'ai senti que ma blague tombait à l'eau, donc j'ai voulu rebondir sur Marilyn Monroe.
Mais par contre, Marilyn Monroe a vraiment repris cette chanson.
Oui.
Ce qui temporellement est d'ailleurs assez bizarre.
Ouais, mais il y a eu Edge of Ultron, tu sais, aujourd'hui tout est possible.
Voilà. Elle a été présidente des États-Unis d'ailleurs, hein, je vous le rappelle.
Exactement. Bon, allez, je reprends sur Resident Alien. C'est donc la deuxième mini-série. Il y avait une première mini-série. C'est toujours écrit par Peter Hogan et dessiné par Steve Parkhouse. Cette fois-ci, ça va. Alors, ça s'appelle Zéro. Pourquoi ? C'est traditionnel chez Dark Horse, puisque quand ils font un numéro zéro comme ça pour des mini-séries, ça réimprime simplement des chapitres qui ont été publiés en pré-publication justement dans les pages de Dark Horse Presents. Là, pour ce Resident Alien, vous pouvez retrouver les chapitres parus dans Dark Horse Presents 18, 19 et numéro 20. C'est le début de la mini-série. Je vais rappeler très rapidement le pitch de Resident Alien. Resident Alien voit un alien, comme son nom l'indique, tomber sur Terre, s'échouer, son vaisseau s'écrase, et il va prendre l'apparence, puisqu'il a un petit pouvoir qui lui permet de se faire passer pour un humain aux yeux des gens. Les gens donc le voient humain, alors qu'en réalité il est alien, et dans les cases de la BD d'ailleurs on le voit dessiné sous forme d'alien, pour pouvoir justement le remettre plus facilement. Et il va être dans une petite ville, une petite communauté, où il va devenir un docteur suite à la mort de celui-ci. Il va reprendre des fonctions de docteur. Il incarnait un docteur qui était en semi-retraite. Et dans la précédente mini-série, il y avait un tueur en série dans cette ville et il avait participé à l'arrestation. Cependant, l'infirmière qui bosse avec lui avait découvert sa vraie nature, c'est-à-dire ce n'est pas un humain. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est, mais ce n'est pas un humain. Rappelons en même temps que cette infirmière est chamane, elle est indienne avec des pouvoirs chamaniques, ce qui fait qu'elle fait pas mal de rêves assez étranges, où elle se balade à dos de cheval, enfin bref.
Elle rêve de Dorothée aussi.
vous verrez ça dans le comic. Non, c'est vraiment bien foutu. On reprend vraiment l'histoire, on en apprend un peu plus, il y a beaucoup de flashbacks cette fois-ci avec ce qui s'est passé il y a un peu plus de deux ans, au moment du crash de l'alien, et on se rend compte que les services gouvernementaux sont à sa poursuite et qu'ils ont découvert pas mal d'infos sur lui. C'est vraiment bien, on replonge. Moi, j'attendais vraiment avec impatience que cette série reprenne. J'avais adoré la première mini. C'est vachement sympa puisqu'il y a un côté très petite ville de campagne dans cette mini-série. Il y a vraiment une atmosphère particulière. On apprend à connaître les personnages de cette ville, parce que ça reste une petite ville américaine où les gens se connaissent quasiment tous. Voilà, c'est vraiment bien foutu. Il y a un très bon feeling. Les dessins de Steve Parkhouse sont très sympas. Ils sont bien faits. Ils sont propres. Voilà, ça, il y a rien qui tâche dedans. Non, j'adore cette série.
À part l'encre du vin quelquefois sur les doigts, ça.
Si elle est pas sèche, oui, bien sûr. J'ai hâte de découvrir le pitch de cette nouvelle mini, puisque à la fin de ce numéro 0, on va comprendre sur quoi ça va partir et pourquoi ça s'appelle le Suicide Blonde. Non, franchement, j'adore. C'est mon petit coup de cœur de la semaine. On va dire un petit coup de cœur par défaut, puisqu'il n'y avait pas grand chose de plus qui m'a séduit, mais voilà, c'est vraiment une valeur sûre et quelque chose loin de ce qu'on a l'habitude de voir, encore une fois, dans les comics de super-héros traditionnels. Donc un bail pour ce Resident Alien Suicide Blonde numéro 0. Bien sûr, si vous n'avez pas déjà acheté les Dark Horse Presents. On va maintenant passer très rapidement à notre partie digitale. On va revenir sur Marvel et Nono va nous présenter Infinity. Alors que je retrouve le titre exact, Infinity Against the Tide numéro 1. À toi, Nono.
Ouais, donc je vais vous parler de ce premier numéro qui accompagne maintenant traditionnellement la sortie d'Event, donc un numéro d'Infinite Comics, donc du Turbo Media spécialement fait pour les tablettes. Là, ça raconte l'invasion par une armée de robots. Donc je me souviens plus de leur nom à ces robots.
Bah les Builders.
Bah voilà, c'est les Builders, voilà, que je ne connaissais pas du coup, c'est pour ça que j'ai pas reconnu au premier abord.
Bah ceux que l'on voit dans Infinity justement.
Ouais. qui viennent en fait envahir une planète Skrull. Et il y a le Silver Surfer qui va arriver pour essayer de les sauver. Voilà, pas grand chose d'autre à en dire, c'est sympathique, mais j'ai trouvé que c'était pas à la hauteur des premiers Infinite Comics, personnellement.
On est plus dans un produit typé ce qu'on a pu voir avec Wolverine Japan's Most Wanted. Déjà donc à savoir que ce n'est pas un numéro gratuit cette fois-ci, c'est un numéro qui vaut 1,99$.
Oui, mais qui est offert si vous achetez le Infinity numéro 1.
Oui, vous avez le code dedans, mais bon pour ceux qui ne voudraient que le digital n'est pas gratuit. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, je le précise.
Ouais.
C'est fait en Turbo Media, tu avais donné les crédits hein, de toute façon Jason Latour.
Non, j'ai pas donné les crédits autant pour moi.
Jason Latour est au scénario, je retrouve plus le dessinateur, ça va me revenir. Voilà, c'est Augustin Alessio. J'espère que je le prononce bien.
Augustin Alessio.
Ouais. Ouais. Bon bah voilà, enfin c'est il y a du Turbo Media, il y a le Silver Surfer, ce retour du Silver Surfer, moi je trouve que ça m'a fait, enfin moi perso ça m'a fait plaisir de le revoir.
Oui, moi aussi, mais j'ai trouvé qu'en termes de Turbo Media, c'était pas à la hauteur de ce que qu'on avait déjà eu par le passé.
Certes, mais le dessin s'y prête moins aussi, le style graphique s'y prête moins.
Ça dépend, on avait eu des histoires qui étaient pas non plus super transcendantes, et là, voilà, moi je trouve que ça fait le job, et j'ai bien aimé ce retour, auquel je m'attendais pas finalement, je savais pas que ça allait être à propos du surfeur parce que j'avais pas vu cette couverture. J'ai tout de suite, pris le truc après à la lecture d'Infinity. Et donc voilà, non, il arrive comme ça. Je trouvais ça pas mal, un peu long, un peu longué. Finalement, l'histoire est assez simple. Hein,
oui, très simple.
Je sais pas quel rôle il va jouer vraiment dans Infinity, ce qu'il va jouer
un grand
rôle.
De toute façon, avec le surfeur, c'est toujours longué. C'est vraiment un personnage qui est qui prend toujours vachement de temps à agir, qui est toujours dans la réflexion et se dire est-ce que mes actes sont justifiés ou pas. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect très longué.
C'est pour ça qu'il foire à chaque fois, puisque le temps qu'il réfléchit, s'il doit agir, bah les planètes sont déjà complètement détruites. Il y a plus personne dessus, il y a plus un grain d'herbe. Donc voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec moi, l'herbe est en grain, bien sûr.
Bah bien sûr.
Oui. Bah oui.
Un grain d'herbe.
C'est bien connu. Oui. non, enfin, moi j'ai bien aimé. Alors 1,99€. C'est un petit peu cher, mais offert avec le comic, c'est un très bon ajout.
Si vous avez acheté, pour moi, mon avis personnel là-dessus, si vous avez acheté Infinity numéro 1, allez-y, allez le lire. De toute façon, voilà, vous l'avez, on vous l'offre, donc allez-y. Par contre, pour moi, ne dépensez pas 1,99€ pour le lire. Ça vaut pas le coup.
Et c'est vraiment une vraie valeur ajoutée à Infinity qui pour ce prix-là reste vraiment vraiment super bien quoi. On a deux choses en une quoi. On a déjà un épisode double, on a ça en plus. C'est vraiment cool quoi. C'est je trouve un bon lancement pour un event. Moi franchement cette histoire je lui mettrais un check-it plus, allez. Un check-it plus, j'ai trouvé ça sympa et vraiment les dessins m'ont vraiment surpris. Je connaissais pas du tout cet artiste et j'aime beaucoup ce qu'il a fait, quoi. Ça m'a vraiment plu. Visuellement.
Ouais, je serais moins emballé, je dirais juste un check-it, puisque de toute façon, moi, le début de cet événement me laisse froid, donc voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'ambiance dans cet épisode. C'est quand même un peu froid. C'est beau, mais c'est froid.
Ok.
Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on est en plein été.
Oui, oui, encore plus.
Si vous avez encore une autre vanne de ce niveau-là, faut vraiment la faire maintenant.
Non, là j'ai plus rien qui me vient.
Moi non plus.
Allez, on va continuer avec la partie DC et on commence avec le Batman numéro 23, suite de Zero Year, Mr. Nebunny.
Scott Snyder au scénario, Greg Capullo au dessin, Danny Mickey à l'ancrage. Alors, très franchement, c'est un épisode qui m'a pas scotché dans la mesure où il est très simple en même temps à résumer, ça tient en trois scènes. Alors la première scène, c'est vraiment Batman Begins, enfin Scott Snyder qui s'inspire de Batman Begins et qui nous refait limite plan pour plan cette scène où il y a l'attaque du Wayne Manor par les hommes de Ra's al Ghul. Alors là c'est pas les hommes de Ra's al Ghul, mais c'est la seule différence. Donc on retrouve vraiment cette scène et cette ambiance. Ensuite, il y a la scène qui est peut-être la plus intéressante du numéro avec Edward Nigma,
oui.
Qui règle ses comptes avec du coup ce membre de la famille Wayne.
Philip Kane, en fait, qui est membre de la famille Kane.
Voilà, de la famille Kane, pardon.
Bon, la famille Wayne par alliance, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ensuite, bah, on assiste à, comment dire, aux origines de Batman, ce moment, ce fameux moment où il a la révélation de qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit devenir, qu'est-ce qu'il doit adopter comme symbole. On a déjà vu ça, sauf que là, c'est la vision de Snyder, donc très cinématographique. Bon, je suis pas spécialement rentré dedans parce que j'ai déjà vu ça, quoi. On connaît cette histoire. Donc, bon, voilà, un épisode qui m'a pas passionné, et encore une fois, j'ai très peur en me disant que on va encore s'en bouffer pendant 9 mois du Zero Year.
Sans compter tous les fucking tie-in.
Ouais. Ça me passionne toujours pas énormément. Puis de moins en moins, là, puisque c'est vraiment un épisode dans lequel il se passe pas grand-chose de nouveau. Alors, il y a un tie-in aussi, toujours...
Oui, il y a le... Non, le backup, tu veux dire.
Un backup, oui.
Avant de passer au backup, je vais juste parler un petit peu de l'épisode.
Oui, vas-y.
Histoire de bien séparer les deux histoires. Il y a, comme tu l'as dit, cette attaque du gang de Red Hood hein, sur Bruce Wayne qui en mange, mais alors, plein sa gueule. Il finit dans un état assez
lamentable.
Assez lamentable, bastonné à coups de masse à pointe. Ce qui fait toujours plaisir, je pense. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il leur en veut. Il y a vraiment cette scène de la fuite qui est vraiment bizarre, vraiment vraiment bizarre, avec des moments où on avance, on recule, on avance, on recule. Comment veux-tu,
voilà,
que Bruce Wayne se sauve?
Exactement. Et quelle rime en plus.
C'est franchement vraiment difficile à suivre parce que on le voit sortir, après on le revoit à l'intérieur comment il s'en est sorti, mais on sait qu'il s'en est sorti. Enfin, j'ai pas franchement compris le choix de Snyder de vouloir le faire comme ça, cette scène. C'est un choix artistique, au moins c'est un choix différent.
Je pense franchement qu'il s'est sérieusement inspiré de cette scène de Batman Begins quand tu le vois prendre l'ascenseur avec le manoir en flammes et descendre dans sa Batcave. Plan pour plan, c'est vraiment ce qu'on avait dans Batman Begins.
Ouais, mais là, le problème, c'est que tu le vois remonter les escaliers, après tu le vois dehors en train d'ouvrir cette chaîne et sortir du manoir, et puis après tu le revois à l'intérieur dans cette bibliothèque en flammes, et après tu le revois continuer de marcher. Enfin, c'est vraiment zarp, quoi.
J'ai presque envie de te dire, j'ai pas remarqué tellement, je suis pas rentré spécialement dedans, et j'ai lu ça un petit peu sans le lire, quoi, tu vois, parce que bon,
moi aussi j'ai du mal.
En commençant, je me suis dit, bah oui, bah à chaque fois que je commence un épisode, je me dis, il faut que je le termine quand même. Et voilà. Donc,
moi, je me suis endormi dessus hier soir. Quoi. Franchement,
il y avait
cette scène avec Nigma qui était très intéressante, hein, comme tu l'as dit, c'est peut-être la meilleure scène du numéro.
Oui.
On a le traditionnel Alfred qui va recoudre complètement Bruce Wayne, qui est dans un état. Alors, franchement, Capullo lui a vraiment explosé la tête. Hein. Là, il est vraiment méconnaissable, Bruce Wayne. Et puis après, on a cette scène du choix du symbole dont tu en as bien parlé, et je vais ajouter quand même qu'il fait l'opposé de ce qu'a fait Frank Miller, tout en s'en inspirant. Alors je sais pas s'il faut y voir un sens derrière ça, est-ce qu'il y a un sens caché ou pas, mais je sais pas si tu te rappelles cette scène dans Batman Year One où on a la chauve-souris qui entre par la fenêtre, qui pète la fenêtre et qui rentre et qui donne et qui vient se poser et qui donne ce symbole à Bruce Wayne. Et bien là, c'est l'inverse. La chauve-souris remonte de la Batcave, se pose sur une statue et s'envole par la fenêtre. On a vraiment l'opposé de la scène. Est-ce qu'il faut y voir une quelconque symbole de la part de Snyder ou pas?
D'ailleurs, je crois hein, que Miller n'avait fait que refaire cette scène qui est plus ancienne. Il me semble que si je dis pas de bêtises, il me semble même que c'est dans les tout premiers Detective Comics, enfin en tout cas avec Batman, donc à partir du 27, c'est peut-être dans le 28 ou le 29, où on te montre un petit peu les origines et on te montre une chauve-souris rentrée à toute vitesse par la fenêtre et Bruce Wayne surpris qui fait oh une chauve-souris. Enfin voilà, je crois.
Là on repense plus à la version de Miller parce qu'elle est déjà quand même plus récente, vachement revue.
Et puis la version de Miller, je pense même qu'elle casse la fenêtre carrément.
Oui, elle casse la fenêtre, mais voilà, c'est que la chauve-souris rentre et là la chauve-souris sort dans la nouvelle version Snyder. Et c'est ça, je me suis dit, est-ce que il faut y voir un acte inconscient quelconque, un aspect très psycho justement de vouloir se détacher de ça, ou est-ce qu'il n'a pas réfléchi quand il a écrit cette scène tout simplement,
il a voulu la faire à l'envers. Il a voulu lui la faire à l'envers, c'est le cas de le dire.
Il y a toutes ces fenêtres ouvertes, assis devant la fenêtre, dans éclairées seulement par la lune. Enfin, on a tout de suite cette représentation très millerienne de cette scène qui nous vient à l'esprit, quoi.
Je sais pas. Là, honnêtement, toujours est-il que est-ce que finalement ça change grand-chose?
Non, pas forcément. Non, non, mais ça va. Voilà.
C'est juste, je pense qu'il a voulu juste faire un petit peu différent, histoire de dire, voilà, je fais ma vision de cette scène.
C'est ça. Est-ce que c'est le prochain, est-ce qu'il faut y voir un acte manqué ou pas, en fait?
Le prochain va être emmerdé pour faire encore un changement, pour apporter sa patte à cette scène.
Alors, est-ce que la fenêtre traversera le toit par le plafond?
Non, la fenêtre se cassera la gueule et crèvera la chauve-souris et Bruce Wayne fera, oh, une chauve-souris? Oh non, franchement, c'est de la merde, je vais pas prendre ça comme symbole, elle se fait tuer comme une merde par une fenêtre.
Il entendra taper, tu sais, à la fenêtre, comme dans The Raven de Edgar Allan Poe. Puis lui, voilà. Il va ouvrir. Hanté par les chauves-souris, il deviendra fou. Bref, passons au backup. Scott Snyder et James Tynion IV le co-écrivent et dessiné par Raphaël Albuquerque. Tu veux en dire un mot?
Oh, j'ai cru que tu avais été coupé tellement, il y a eu un silence. Écoute, c'est toujours un petit peu une aventure de Bruce Wayne durant sa longue épopée initiatique à travers le monde. Il rencontre à chaque fois des personnages assez pittoresques, on va dire. Il est soumis à diverses épreuves, donc là c'est une épreuve assez particulière. Encore une fois, j'ai pas grand-chose à en dire.
Il est dans une fosse et il doit affronter différents guerriers. Qu'une reine lui avait promis, une reine d'un pays ou d'un gang, on ne sait pas trop quoi, lui avait promis de faire. Et puis, finalement, c'est le mec qui a résisté le plus longtemps. Il se refuse à les tuer pour sortir de la fosse.
Franchement, c'est à chaque fois ça me passionne guère. Je le lis un petit peu pareil parce qu'il vaut bien que je termine et que je lise ça et que j'arrive au bout du comic. Mais à chaque fois, je me dis ah oui, c'est vrai, il y a ça quoi.
Ça vaut pour la mise en scène d'Albuquerque en fait, qui est très sympathique.
Qui est sympa, mais c'est pas le meilleur Albuquerque non plus qu'on ait eu. Hein. Je pense qu'il a fait ça en se disant ah bah oui, il reste ça à faire. Je vais le faire. C'est sympa. Voilà.
Petit Batman.
Encore. Batman. Ça va être sympa pour les gens qui auraient vu ça pour la première fois. Ils vont se dire ah tiens, ça s'est passé comme ça. Pour qui n'aurait jamais lu les origines de Bruce Wayne, enfin de Batman, ça peut faire son petit effet. Mais pour qui comme nous ont des années de lecture derrière, voilà, c'est une fois de plus.
Check it.
Pareil.
Ouais,
comme Howard, check it.
Oh là là.
Vite, passons. Je crois que tu as une review à faire.
C'est un peu le problème de Zero Year, c'est que pour le moment, ça te laisse un sentiment de check it, quoi.
Ouais, c'est
et
tout
pas
à fait.
Un sentiment d'excellent bail comme on nous l'avait teasé que ça serait. Malheureusement. Allez, on continue avec le Green Lantern Corps numéro 23 qui est sorti cette semaine. Un scénario de Van Jensen avec des dessins de Bernard Chang. Robert Venditti est bien sûr toujours co-scénariste. Et on va retrouver Guy Gardner accompagné de ses rookies qui l'avaient suivi dans cette aventure pour aller essayer de défendre une planète et qui se retrouve sans anneau.
Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Rox dans le...
Oui, non, mais il fallait le temps que ça vienne. Il fallait le temps que ça vienne. Il y a pas quelqu'un qui s'appelle Rox, mais il y a quelqu'un qui Rox du poney sévère. Donc, on va dire que la blague est valide.
On va dire ça.
Bon, ils sont à la merci donc de ces Kund, qui sont une race de fiers combattants qui maintenant, ça avait été révélé dans le dernier épisode, offrent leur service en tant que protecteurs à différentes planètes, vu qu'on ne peut plus faire confiance aux lanternes, les gardiens ayant fait trop de saloperies. Suite à un malfonctionnement de cet anneau, hein, comme on voit depuis le début de la reprise par des nouveaux scénaristes, l'anneau qui se coupe de temps en temps, ils ont été, on va dire, désanonisés. on leur a piqué leur anneau, on l'a foutu dans un truc spécial dans lequel ils ne peuvent pas le récupérer, et ils vont être torturés jusqu'à ce que mort s'en suive dans les pires atroces souffrances.
Très bien, ça donne envie.
Et pendant ce temps-là, on va suivre aussi une Star Sapphire qui était partie enquêter, elle, de son côté, avec ces espèces de shapeshifters qu'on avait vu depuis le numéro 21. Et on va aussi suivre ce qui se passe sur Oa, avec un Kilowog qui donc a repris le boulot de Salak, c'est-à-dire devoir gérer un petit peu l'ensemble du corps de façon... Je sais même pas comment qualifier son titre, c'est vraiment le mec qui s'occupe d'un peu tout, quoi. C'est celui qui est juste en dessous, Hal Jordan maintenant, qui dirige le corps, et on voit que les différents lanternes ne sont pas forcément très contents du nouveau management et du fait que les anneaux se coupent sans aucune raison, on ne sait pas d'où ça vient, Salak essaye d'enquêter de tous les côtés, devient fou pensant que c'est un piège des gardiens qu'ils ont laissé, mais n'arrive pas à trouver de fait pour étayer sa thèse. Et on a cette réflexion très très marrante des Green Lanterns, c'est ok, les gardiens c'était des enfoirés, mais au moins ça tournait bien quand ils étaient là. Ça laisse présager de l'ambiance qui se passe sur OA actuellement.
D'accord, mais est-ce que c'est encore un titre parmi la franchise qui a sa place du coup ?
Oui, parce que là on est vraiment dans le corps, on voit vraiment plein de monde.
Mais enfin, est-ce que c'est pas le boulot de Green Lantern Corps justement de faire ça ?
Bah oui, c'est tout à fait ça, puisque c'est Green Lantern Corps.
Depuis tout à l'heure, je pensais à New Guardians, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je viens de réaliser.
bref,
c'est bien. Et sinon, le dernier épisode de Super Hero Spider-Man, bien.
Du coup, il va arriver des gros malheurs à cette Star Sapphire. Vous vous en doutez, John Stewart va réussir à s'échapper. Comment ? Ça, je vous laisse découvrir la surprise. Et on commence à avoir des réponses à pourquoi les anneaux déconnent. Et aussi, peut-être, le retour des entités qui gouvernaient les différentes couleurs. Hein, je rappelle, Ion, Parallax et tous les autres. Ça devient très intéressant. L'épisode est sympa, mais n'est pas transcendant. Mais alors, sur la fin, ça s'accélère et on a un très joli cliffhanger qui laisse présager le meilleur.
Bah tant mieux, c'est ce qu'il faut quand même.
Mais je vais continuer de dire que la série la moins intéressante de la franchise Green Lantern actuellement, ça reste Green Lantern.
Ah oui.
Ça pose problème. Ça me pose un gros problème. On en discutait la semaine dernière avec Bruno dans le Comics Weekly 156. Le Green Lantern est tout juste passable, quoi. C'est potable, point. Ça s'achète par habitude et non plus par super envie. Les autres séries autour, New Guardians ou Green Lantern Corps, Red Lantern, j'ai un numéro de retard, donc je vais toujours pas me préciser, sont plus intéressantes pour moi que Green Lantern lui-même.
Ok. Nono, une réaction ?
Nono voilà. A coupé son micro puisqu'il n'a pas lu de décès cette semaine. Continuons avec le JLA numéro Justice League of America numéro 7, partie de Trinity War, quatrième partie, Bunny.
Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui en parle du coup. C'est parfait.
On sent l'émission préparée à fond.
Geoff Jones et Jeff Lemire sont au scénario et on a du très beau Doug Mankey, hein, si je me trompe pas, parce
oui,
que
ça,
j'essaie d'en trouver les crédits.
C'est
mais
ça, c'est Doug Mankey.
Avec divers encreurs. Alors encore une fois, il y a des pages où l'ancrage est très pâteux et des pages où l'ancrage est beaucoup plus fin.
Il y a des pages
toujours
où c'est
un peu gênant. Oui, c'est vrai. Oui, il y a vraiment des pages où c'est assez dégueu. Alors par contre, l'épisode lui, plus cet event avance, plus je trouve que Trinity War devient intéressant parce que on attaque les vraies problématiques. J'ai envie de dire les vrais problèmes de fond. Non, mais en tout cas, il y a des mystères et ça avance quand même. Ça avance. Il y a le retour de Lex Luthor que j'ai trouvé très drôle parce que en fait moi je me suis beaucoup marré. Il y a Pandora donc qui va rendre visite à Lex Luthor et le dialogue qu'ils ont est juste très savoureux. La manière dont Lex Luthor en a rien à foutre et est pas du tout impressionné par l'apparition de Pandora m'a fait mourir de rire.
Fidèle à lui-même quoi.
Voilà. Bon, alors par contre, ça fait un petit peu penser que forcément, Forever Evil arrive sur ses grands chevaux. Reste à voir comment tout va s'imbriquer parce que là,
Se sent que tu n'as pas écouté le Weekly News où Geoff Jones avait tout spoilé.
Non,
tant mieux pour
je
toi.
L'ai pas écouté.
Tant mieux pour
et
toi
oui.
Puisque tu ne sais pas déjà la fin et c'est bien de, enfin, c'est tant mieux, c'est tant mieux.
Mais est-ce que ça vaut le coup ?
Je vais rien dire.
Ah bah d'accord, je sais pas. Enfin, bon,
je vais rien dire, mais du coup, tu sens les choses venir et tu sais à quoi t'attendre, donc forcément, tu as moins cet aspect de surprise.
Ouais, mais j'espère qu'il y aura quand même une petite surprise.
Si tu connais pas, oui, il y a une surprise. Si tu le sais à l'avance, à mon avis, de surprise, il n'y en aura pas.
D'accord. Pour le moment, je ne sais rien de particulier, si ce n'est ce que je lis là. Alors qu'est-ce que je peux dire sur cet épisode ? Essentiellement, hein, c'est la Justice League, enfin une partie qui est confrontée au Docteur Psycho. Mmh. De leur côté, la Justice League of America, ou en tout cas certains membres, sont dans la House of Mystery à la recherche du Phantom Stranger pour avoir des réponses.
Ouais, Phantom Stranger qui était parti avec Deadman, Batman et Katana interroger l'âme de comment ça s'appelle, Docteur Light. oui. L'âme de Dr. Light, puisque...
Pas la chanteuse à chapeau.
Pourquoi, c'est toi, tu ouvres la boîte de Pandore des malédictions aussi, quoi.
Mais c'est ça, bah, je reste dans le sujet en même temps.
non, mais voilà, il est parti...
Il est parti chanter pour ceux qui sont dans le G2.
Tu m'as troublé, du coup.
Et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui font mal.
Ouais,
qui font mal.
Mais justement, le Phantom Stranger, lui, va avoir très mal.
Oui. Mais en tout cas, à la fin, voilà, on a cette page où, comme à la grande époque, il se passe diverses choses en même temps et ça sent mauvais un petit peu pour tout le monde. Et puis, alors, j'ai pas tellement compris où on va avec Wonder Woman, mais bon, en tout cas, c'est intriguant.
Oui, ça donne envie. De toute façon, je pense que Geoff Johns répondra à cette question dans le prochain épisode de Justice League, hein, puisque c'est clairement la direction qu'il prenait déjà dès le premier épisode.
Oui, mais en tout cas, je suis agréablement surpris parce que au début, c'était vraiment un event qui arrivait sur ses grands chevaux, sans surprise, cette confrontation entre la Justice League of America et puis la Justice League, je trouvais très poussée. Et puis là, bah, on passe à autre chose puisque en plus, là, clairement, Atom hein, révèle à la Ligue bah, ce que la Justice League of America était censée faire et pourquoi elle a été créée. Donc vraiment, en fait, Geoff Johns se dit bon bah voilà, assez de ça, on va passer à autre chose.
Reste à savoir quel est l'apport de Lemire sur l'histoire écrite par Geoff Johns. Le premier épisode de Justice League, de Trinity War qui était dans Justice League, écrit seulement par Geoff Johns, c'était chiant comme la mort. Les épisodes d'après où Jeff Lemire était présent étaient plus intéressants. Celui-ci est très bon, mais reste à savoir si c'est Jeff Lemire qui embellit ou est-ce que c'est Geoff Johns qui avait conçu son premier épisode avec un premier épisode très bateau, un affrontement entre les deux ligues. Qui était vraiment tellement cliché que voilà.
Ouais, ça démarrait bien mal et là quatrième partie finalement ça a bien avancé.
Reste que donc la semaine prochaine nous aurons le Justice League Dark écrit uniquement par les Lemire et on terminera avec le Justice League écrit uniquement par Geoff Johns. Bon, quand on sait déjà un petit peu ce qu'il prévoit, faut voir comment il va l'amener quoi.
Ok. Bah en tout cas ça m'intrigue donc ça me donne envie d'aller voir la suite. Pour moi, par exemple, c'est un event qui, en tout cas, bon, au stade actuel,
bah, Infinity vient de commencer,
mais je veux dire, j'ai moins d'espoir, si tu veux, pour Infinity que là où je me dis peut-être que finalement Trinity War dans l'ensemble, j'aurais bien aimé.
Ouais, mais bon, Trinity War est un event qui en amène un autre, donc c'est difficile ouais. Aussi de le juger comme ça, quoi. Il faudra peut-être juger l'ensemble des deux events une fois que ce sera terminé, et on pourra dire vraiment si ça valait le coup ou pas.
Mais bon, globalement, voilà, ça relève un petit peu mon intérêt.
Dernier petit mot sur ce Channel 52, hein, qui de semaine en semaine est de pire en pire. Là, carrément, se fait pas chier. On réutilise la même chose que ce qu'on avait fait il y a 2 semaines. Soyons fous.
Ah, d'accord, j'ai pas remarqué. D'accord, ok.
Voilà, bon, la semaine dernière, je gueulais parce que il se passait vraiment rien dedans. Mais là, c'est encore pire. On réutilise carrément des planches et on redit la même chose que ce qu'on a dit il y a 2 semaines.
Bon, c'est peut-être qu'à mon avis, ils vont pas, ça va pas durer.
Supprimez-le, ce truc. Remettez des courriers des lecteurs. Supprimez-le, c'est chiant. C'est 2 pages qui ne servent à rien et pour lesquelles on paye. Donc autant avoir des pages qui servent. Les courriers des lecteurs sont plus instructifs que ça.
Oui, puis c'est pas drôle encore, ils feraient un truc, tu sais, où 2 petites pages où tu te marres. Mais effectivement...
Ils avaient commencé comme ça, et puis finalement, après, ils se sont dit, oh, on va faire des news, et puis bah, finalement, maintenant, c'est n'importe quoi. Ils essaient d'avoir leurs propres histoires, mais histoires qui n'avancent pas de semaine en semaine, donc ça ne sert strictement à rien. Donc, pour ce Justice League of America, ta note, Bunny.
Écoute, ta note, donc la sœur de Thanos, hein, rappelons-le.
Ouais, la sœur du DCverse, bien sûr.
Exactement, le pendant de Thanos dans le DCverse.
Le Pandora de Marvel, ouais.
Exactement. C'est
n'importe quoi. Vite.
la drogue, c'est mal, hein. Fait pas comme nous. un petit bail. C'est pas extraordinaire, c'est pas mal, quoi.
Pareil, petit bail pour moi aussi, ce Justice League. Je suis en train de demander si j'ai vraiment donné ma note. Pour Green Lantern Corps. Je crois que j'ai dit que c'était bien, mais au cas où je la redonne maintenant, j'ai un gros doute. Green Lantern Corps est un bail aussi. Voilà. Je crois que je suis passé sans donner ma note, en fait. Bref. On va terminer notre émission, comme chaque semaine, avec les sorties TP de la semaine. On commence par du DC avec Nightwing, Old Friends and New Enemies. Un TP qui reprend des vieilles aventures de Nightwing publiées dans Action Comics, à l'époque où c'était Action Comics Weekly. Il fut un temps où Action Comics ne publiait plus des histoires de Superman. Ça a duré 47 numéros de mémoire, ou 46.
Ah, il y avait plus Superman du tout.
Non, il y avait quatre aventures d'autres personnages et ça sortait toutes les semaines. C'était quatre petites histoires de 8 pages et qui s'étalaient sur plusieurs semaines du coup, un peu dans le thème de Marvel Comics Presents par exemple.
D'accord, ok.
Donc ça vaut $15. Ça reprend des vieilles histoires de Nightwing publiées dans ses Action Comics Weekly, avec à l'intérieur le Secret Origin 13, le Action Comics Weekly 613 à 618 et 627 à 634, pardon. Bien sûr, ça ne reprend que les histoires de Nightwing, hein, et pas l'ensemble des numéros. Donc c'est pour ça qu'il y a l'impression qu'il y a énormément d'histoires. Il y en a pas tant que ça. C'est du Marv Wolfman, Chuck Patton, Gil Kane, voilà.
Bon, un créateur qui a marqué vraiment ce personnage.
Ouais.
Marv Wolfman et au Nightwing, enfin voilà.
Toujours chez DC, Smallville saison 11 TPB volume 2 qui sort, hein, pour les ceux qui veulent suivre la suite de Smallville en comics. Reprend les épisodes 5 à 8, hein, de ce comic qui sort d'abord en digital, qui ensuite a une impression papier reprenant deux épisodes digitaux, et ensuite une impression TPB. Voilà, ça vaut $15. Passons maintenant chez IDW avec, pour les gens que ça intéresse, je le mentionne parce que en tant que métalleux je ne peux pas faire autrement, le Kiss Solo TPB, scénarisé par Chris Rayol avec des dessins d'Angel Medina, mais pas que, hein, on met d'abord les gros noms en premier. On a aussi du Tom Wolfe au scénario et au dessin, nous avons du Ton Rodriguez, du Ricardo Castro et du Alan Robinson. Ça vaut $17.99 pour les gens que ça intéresserait d'avoir ces histoires solo des quatre membres de Kiss, dans des trucs complètement barrés, un peu ce qu'on avait à l'époque de Image. Voilà, je le mentionne vraiment pour le côté métalleux, parce que pour moi, enfin, je trouve ça totalement inintéressant. Je les ai feuilletés, ça avait l'air chiant comme la mort.
Oui, puis, enfin, je veux dire, c'est fini, c'est même plus has-been, faudra inventer un nouveau mot, là.
Ah non, Kiss y tourne toujours, et voir Kiss sur scène, c'est vraiment excellent. Maintenant, voir Kiss dans les comics...
Oui, enfin voilà, non, mais tout ce qui est produits dérivés, quoi, autour de Kiss, je veux bien qu'ils aient leur carrière musicale, toujours, bien sûr, mais après, tout le merchandising autour...
Mais ça a toujours été le problème de Kiss, hein, que de faire énormément de merchandising...
De merchandising, t'as dit.
Mais c'est pas loin. Le problème, c'est que bah, Kiss, voilà, ils ont vraiment toujours vécu sur leur image. Rappelons qu'au moment où ils se sont démasqués, ils se sont cassés la gueule. Ouais. Et puis, ils sont revenus avec les masques, et c'est à peu près reparti, mais voilà... ils vivent que sur ça, quoi. Et on a un Gene Simmons qui gère sa franchise.
Finalement, tout le temps, c'est une bonne leçon de super-héroïsme, tu vois. Quand tu enlèves ton masque, tout se casse la gueule, et puis après, faut revenir avec son masque. Voilà.
Et pour les gens qui ont vraiment des énormes balls et qui ont vraiment du temps à perdre et qui n'ont pas peur de pleurer et du sang des yeux, eh bien, regardez le film de Kiss. Ça vaut toutes les saloperies que vous pourrez voir dans le monde.
C'est pire que Spawn.
Non, c'est juste de la merde, hein. Disons-le clairement, c'est vraiment de la merde. Si, c'est vraiment le pire nanar, quoi.
Le film des Spice Girls.
Ah, je me demande si ce serait pas mieux, hein. Enfin, à vérifier. Allez, passons à autre chose, restons pas sur Kiss pendant longtemps. Sinon, tu sais ce qui va nous arriver.
Non.
Kiss.
Smayas.
Kiss. Voilà. C'est en rapport avec le début de l'émission. Bref, c'est pas grave. Continuons avec IDW. IDW qui sort une grosse édition qui s'appelle Transformers 30th Anniversary Collection. C'est du hardcover, ça vaut $50. Et alors, je suis pas un gros spécialiste de Transformers, mais j'ai noté cette publication parce qu'elle reprend beaucoup de choses qui ont été publiées à travers ces 30 années de comics de Transformers, enfin, ces 30 années de Transformers tout court, qui ont eu énormément de comics. On va retrouver des épisodes qui avaient été publiés chez Marvel, des épisodes qui avaient été publiés chez Dreamwave, ainsi que des épisodes publiés chez IDW, et c'est assez rare pour être mentionné que dans une édition, on retrouve plusieurs publishers, finalement.
Ouais, c'est de petites pépites pour qui aime l'univers des Transformers, à mon avis, c'est intéressant d'avoir ça.
Voilà, puis ça peut peut-être permettre de le découvrir, hein, en version comics, pour ceux que ça tenterait. Donc ça vaut $50, c'est un gros bouquin, c'est du hardcover, mais ça peut être intéressant, et notamment par ce côté multi-éditeur au sein de la même publication. Chez Image maintenant, grosse sortie de la semaine, le Invincible Compendium volume 2 avec les épisodes 48 à 96. Et oui, c'est énorme. Ouais. C'est un gros bouquin. Ça vaut $64.99 et c'est le meilleur moyen pour lire du Invincible à très 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 bas coût.
C'est surtout que malheureusement en français, on en est quasiment là, quoi.
D'ailleurs, oui, je crois qu'on en est là. Tout juste. Je sais même pas si on arrive au 48. J'ai un gros doute. Non.
Si. Je crois qu'on y est arrivé, mais on doit être juste après, quoi. On doit être au 50 et des poussières.
On est au tout début de cet énorme omnibus.
Ouais.
voilà, ça, si vous voulez pas attendre, c'est le meilleur moyen. C'est vrai que c'est dommage pour Delcourt, qui a bien besoin qu'on le soutienne pour Invincible, hein, qui l'ont ramené un petit peu d'entre les morts parce que ça ne se vendait pas. Et suite au succès grandissant de Walking Dead et des produits Robert Kirkman avait ramené Invincible, qui remarche un peu.
Ouais, mais il y a tellement de retard, voilà. Tellement de retard. Et puis, peut-être un format aussi, puisque bon, bah, on est toujours sur un format dur. Ils auraient fait ça peut-être en souple, à l'américaine, un TPB souple.
Bah oui, ça s'y prêtait peut-être plus.
Moins cher, et du coup, pouvoir peut-être en sortir un de plus et faire la différence, je sais pas. Et amener plus de monde. Mmh. Voilà, enfin bon.
Voilà, si vous voulez découvrir cette série dont Sam nous parle énormément de fois,
bah, qui est très bonne, hein, qui est très bonne, et que Florent a découvert d'ailleurs, il a lu le premier compendium et il me disait que c'était vraiment extraordinaire.
Il l'avait acheté en prévision de la sortie de ce deuxième, et il a dû jeter dessus cette semaine, quoique non, parce que là, vu qu'il est en vacances, mais il se jettera dessus dès qu'il reviendra de vacances.
Mais il est revenu de vacances exceptionnellement pour acheter ce compendium en laissant sa famille et sa copine derrière, hein, puisque bon, faut pas déconner non plus.
Invincible, quoi. Voilà. Allez, passons à Marvel, deux sorties Marvel à noter cette semaine. On va vous zapper hein, les sorties qui sortent en VF, puisque c'est disponible en VF aussi, vous avez le choix. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de pas en parler, de pas trop rallonger les émissions. Déjà, cette partie TPB est très très longue.
Ouais.
Doctor Strange and Doctor Doom, Triumph and Torment, un graphic novel pardon qui était sorti dans les années 70, qui est réimprimé là avec notamment du Mike Mignola. Alors on va retrouver ce fameux Doctor Strange et Doctor Doom Triumph and Torment. On retrouvera aussi un épisode de Doctor Strange le numéro 57 ainsi que du matériel provenant d'Astonishing Tales numéro 8, de Marvel Fanfare numéro 16 et 43. Voilà, ça vaut $17, un bon moyen de découvrir peut-être le personnage de Doctor Strange, un personnage qu'on ne connaît pas forcément très très bien. Pour les plus récents, les plus récents lecteurs de comics, pas mal tenus par Bendis dans son run sur les Avengers, mais Doctor Strange c'est tellement plus que ça. Ça peut vous permettre de le découvrir à pas trop cher.
Oui, puis un truc avec le Docteur Doom, moi personnellement j'aime bien quoi.
Et enfin pour terminer, je signale la sortie du Essential Fantastic Four TPB volume 9. Je rappelle que les Essentials sont des gros bouquins qui reprennent une masse d'épisodes en noir et blanc, voilà. Mais pour le style de l'époque, ça correspond tout à fait. Là, on a des scénarios de Len Wein avec des dessins notamment de Keith Pollard. Ça vaut $20, c'est pas très cher, et ça reprend les épisodes 184 à 188, 190 à 207 et les annuals 12 et 13. Quid de l'épisode 189?
Je dis une connerie, on n'est pas encore aux années John Byrne.
Non, pas encore, bientôt. Ça arrive bientôt, là. Arriver au 207, c'est dans pas trop longtemps. Il y a peut-être encore un Essential avant d'arriver à John Byrne. Ouais. Là, c'est du Len Wein, c'est très très bon aussi. Et vraiment, ce dessin typé années 70 marche très très bien en 70, ouais, fin des années 70, marche très très bien en noir et blanc. Uniquement noir et blanc. Ça se lit très bien et c'est un bon moyen de découvrir tous ces vieux épisodes à vraiment pas cher, parce que $20, vous avez une quarantaine ou une trentaine d'épisodes, ça vaut largement le coup.
Bah des heures de lecture, ouais.
Très bonne époque encore une fois pour les 4 fantastiques. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous remercie une fois de plus de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour les autres sorties du mois d'août. Vous nous retrouvez aussi, bien sûr, mardi pour le Weekly News avec votre dose d'actu comics et dérivés, ciné, télé, jeux vidéo et compagnie. Et enfin, vous retrouverez jeudi prochain le Comic City avec toutes les sorties VF du mois. D'ici là, comme d'habitude, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Nous les lirons et nous y répondrons dans le Weekly News, dans la partie dédiée qui s'appelle Comics.com. Et bien sûr, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur le site, sur iTunes et tous les bons agrégateurs de podcasts. À la semaine prochaine, et puis merci à Mr. Nebunny et à Nono de m'avoir accompagné pendant cette petite heure et quart.
Mais ce fut un réel plaisir, tu ne peux pas savoir.
Nono, je t'entendais plus.
Bah ouais, mais en fait je m'étais endormi, ta voix était tellement soporifique que...
Ouais.
Allez,
bah, vas-y.
Sam n'est plus là, j'ai plus personne à clasher là.
Ouais. Bah moi tiens, je... Et bah moi j'emmerde Sam, tiens, voilà, puisqu'il est pas là.
Et, bah, ouais,
et puis Bruno aussi, voilà. Je suis sûr qu'il a aimé Infinity en plus.
La blague de Steve, quand même, qui nous a fait hors antenne.
Ah, bon, allez très vite, hein, c'est le petit bonus de cette émission.
Ouais, et
quel bonus ? Qu'obtient-on quand on met un chapeau à Bruno ? Nous obtenons un Bruno-no !
Et voilà !
Voilà, donc sur ce, peut-être à la semaine prochaine, si vous n'êtes pas désabonné. Et...
Oui.
Et on vous remercie, on vous dit à très bientôt.
À bientôt les enfants.
Quelle fin formidable. Au revoir tout le monde.